VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'écoute de cette édition du 29 janvier 2016. Nathalie Barge et Eric Manirakiza avec vous à la une ce soir, Nathalie.
Plus de 10 morts et de nombreux blessés dans un nouvel attentat dans le nord-est du Nigeria.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit très alarmé par de nouvelles allégations de viol sur des enfants en Centrafrique par des soldats des forces étrangères.
Deux envoyés spéciaux du quotidien français Le Monde, Jean-Philippe Rémy et Phil Moore, ont été arrêtés hier et ils ont été libérés aujourd'hui sans inculpation.
Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la CPI. Hier, l'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable.
Ouverture du sommet de l'Union africaine demain. La crise au Burundi fera l'objet d'une attention particulière des chefs d'État.
Le sommet qui commence demain des chefs d'État prennent la décision sans équivoque en faveur donc du projet Mapobutu, une force pour la protection de la population et pour le désarmement des milices Imbonerakure, les milices du pouvoir.
Léonard Nyangoma de l'opposition burundaise.
Début des pourparlers à Genève sur la crise syrienne.
Et ici aux États-Unis, ultime débat hier soir des primaires républicaines avant le vote de l'Iowa lundi. Un débat boycotté par Donald Trump.
Au Nigeria, plus de 10 personnes ont été tuées, plusieurs blessées ce vendredi dans un attentat suicide commis par un garçon sur un marché à Gombe dans l'état d'Adamawa, rapporte l'AFP citant des témoins. Le marché a été bouclé et les marchands sont rentrés chez eux. Après l'attaque, a précisé Adamo Ahmad, un responsable de la sécurité du site, affirmant que le garçon chargé d'explosifs devait avoir 12 ans.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré ce vendredi être très alarmé par de nouvelles allégations de violences sexuelles sur des mineurs en Centrafrique par des membres de forces militaires étrangères. Les crimes présumés ont principalement eu lieu en 2014, mais n'ont été découverts que ces dernières semaines. Mélisse Hegel vous en dit plus.
C'est lors d'une interview de plusieurs filles que l'équipe de l'ONU a découvert qu'elles auraient été abusées sexuellement. Selon quatre de ces filles, âgées de 14 à 16 ans, leurs agresseurs appartenaient à des contingents de l'Union européenne. Trois d'entre elles ont déclaré qu'elles pensaient que leurs agresseurs faisaient partie du contingent géorgien de l'Euphore. Le ministère de la Défense de Géorgie a affirmé faire tout son possible pour trouver les responsables de ces crimes. L'équipe des Nations Unies a également interviewé une sœur et un frère de 7 et 9 ans qui avaient été abusés en 2014 par des militaires de la mission française en RCA. La fillette a déclaré avoir pratiqué des actes sexuels par voie orale sur des soldats français en échange d'une bouteille d'eau et d'un sachet de biscuits. Ces 6 allégations ont eu lieu dans les environs du camp de déplacés internes de Mpoko, situé près de l'aéroport de Bangui. Selon un porte-parole du Haut Commissariat, en 2014, il y a eu plus de 2500 cas de violences sexuelles et viols dénoncés.
Et à ce propos, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a saisi la justice après donc ces nouvelles allégations impliquant des soldats français en Centrafrique, a-t-on annoncé vendredi dans son entourage. Il a saisi les autorités judiciaires françaises dès qu'il a pris connaissance des documents transmis le 19 janvier par le haut-commissaire aux droits de l'homme.
Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale à La Haye. Hier, à l'ouverture, l'ancien président ivoirien et son co-accusé, Charles Blé Goudé, ont plaidé non coupable, n'est-ce pas Idriss Fall?
Les forces pro-Gbagbo ont tiré sur la foule provoquant la mort et des blessures physiques graves, a déclaré aujourd'hui Eric McDonald, représentant de la procureure Fatou Ben Souda, devant les 3 juges de la CPI. Il a ajouté qu'ils ont été abattus simplement pour avoir soutenu Alassane Ouattara, montrant des séquences de vidéos d'attaques armées présumées des forces pro-Gbagbo contre des partisans de l'opposition. Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable hier à l'ouverture de leur procès. M. Gbagbo est le premier ancien chef d'État poursuivi par la CPI. Son procès pour crime contre l'humanité devrait durer entre 3 et 4 ans.
Deux envoyés spéciaux du quotidien français Le Monde, le français Jean-Philippe Rémy et le britannique Phil Moore, arrêtés hier au Burundi avec, selon les autorités, des criminels armés, ont été libérés aujourd'hui sans inculpation. Après leur audition par le parquet, a annoncé l'ambassadeur de France à Bujumbura, Gerrit Van Rossum, a dit que les équipements professionnels ne leur avaient pas été rendus dans l'immédiat. Des précisions avec Christophe Nkurunziza.
Ils sont libres, ils sont en bonne santé. Il y a eu diverses personnalités françaises, britanniques, qui sont parties les voir dans les enceintes du Service national des renseignements. On les a dirigés vers le parquet, chez le procureur de la République. Ils ont été interrogés et après quelques minutes, ils ont été libres de leur mouvement.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement ?
Le photographe Phil Moore était en train de prendre des photos à Nyakadiga, au centre de la capitale. Et quand il y a eu une équipe de la police qui est arrivée sur place, les quatre personnes qui étaient avec le photographe sont parties en courant. Et Phil Moore, lui aussi, il est parti en courant. Et directement, la police dit qu'il était en train d'interroger les insurgés. Et ils étaient en train de mener des enquêtes pour voir s'il n'était pas de mèche avec ces insurgés. Trois minutes après, il y a Jean-Philippe Rémy qui est arrivé sur place, cherchant son collègue. On l'a directement amené au Service national de renseignement.
Un tribunal nigérien a refusé aujourd'hui d'accorder la liberté conditionnelle au militant indépendantiste Biafré, Nnamdi Kanu et deux autres prévenus accusés de trahison, décidant qu'ils devaient rester en détention jusqu'à leur procès, rapporte l'AFP. Kanu, arrêté en octobre, a plaidé non coupable la semaine dernière, des accusations pour lesquelles il encourt une peine de prison à vie. Le juge John Tsoro de la Haute Cour fédérale à Abuja a dit craindre que le militant, qui a la double nationalité nigériane et britannique, ne se présente pas devant le tribunal s'il était libéré sous caution. Le procès a été ajourné au 9 février.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les discussions sur la Syrie ont démarré aujourd'hui à Genève avec une rencontre entre l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, et la délégation du régime de Damas. Cette rencontre entre M. de Mistura et la délégation conduite par l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar al-Jafari, marque le début de pourparlers pour tenter de régler la crise syrienne. Mais les principaux groupes de l'opposition refusent pour l'instant de participer au processus.
Et en Arabie Saoudite, quatre personnes ont été tuées et 18 blessées dans une attaque suicide ce vendredi contre une mosquée chiite dans l'est du pays. Dernière attaque en date d'une série d'attentats visant la minorité religieuse du royaume. Deux assaillants ont attaqué la mosquée de l'imam Reza dans la ville d'Al-Arsa, un moment de grande affluence pour la prière hebdomadaire du vendredi, l'un déclenchant ses explosifs et l'autre ouvrant le feu sur les fidèles qui ont réussi à le désarmer et le ligoter, rapporte l'AFP.
Ici, aux États-Unis, hier a eu lieu l'ultime débat des primaires républicaines avant le vote de l'Iowa lundi. Le grand absent, c'était le milliardaire Donald Trump qui a fait le pari jeudi de boycotter l'événement. Bagassi Koura nous en dit plus.
Deux événements politiques concurrents ont eu lieu hier soir à quelques kilomètres de distance à Des Moines. Un débat républicain dans le centre de conférence entre sept candidats aux primaires et un meeting de l'homme d'affaires Donald Trump organisé en deux jours dans une salle bondée sur le campus de l'université Drake. Les candidats ont longuement débattu de sécurité nationale, de l'islam radical et de la stratégie militaire à adopter contre le groupe État islamique, chacun se présentant comme le plus capable de devenir commandant en chef. Le milliardaire Donald Trump a boudé, mais son ombre pesait sur ces débats, agacé par la partialité supposée de Fox News, la chaîne organisatrice, et de sa journaliste vedette Megyn Kelly. Il a annulé sa participation et promis de voler des téléspectateurs à la chaîne préférée des conservateurs. Quand on est maltraité, il faut savoir se défendre, a-t-il dit pour justifier son boycott du débat. Dans un communiqué, Donald Trump a ensuite annoncé que son événement avait permis de lever 5 millions de dollars en faveur de 22 associations pour anciens combattants et qu'il avait ajouté 1 million de sa propre poche.
Les Pays-Bas vont participer aux frappes aériennes menées en Syrie contre le groupe État islamique, a annoncé ce vendredi le gouvernement néerlandais en réponse à une demande de Washington et de Paris. Les récentes attaques terroristes à Paris, Istanbul et Jakarta mettent en évidence le fait que l'État islamique est un danger pour notre sécurité et notre manière de vivre, a affirmé le Premier ministre Mark Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Anastasie Tudiech.
Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën investit dans la recherche automobile en Afrique. L'Open Lab, pôle de recherche et de développement, va voir le jour dans la capitale marocaine en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Les travaux de recherche se concentreront sur trois axes, la mobilité électrique, les énergies renouvelables et la gestion de la chaîne logistique. La croissance économique du Nigeria a atteint 3% pour 2015, le taux le plus faible depuis plus de 10 ans, selon un rapport du Fonds monétaire international. Alors que des pays pétroliers comme la Norvège ont anticipé les fluctuations des cours du brut, le Nigeria, rongé depuis de longues années par la corruption, est très dépendant des importations et a dû largement puiser dans ses réserves financières. Le pays a annoncé le mois dernier un budget record de 6 080 milliards de naira, environ 28 milliards d'euros pour 2016, afin de stimuler la croissance. Dans le cadre d'une vaste opération d'enquête ciblant le secteur financier menée par le gouvernement chinois, Citibank, un établissement financier chinois de taille moyenne, a été victime d'une fraude montée par des employés et qui pourrait lui coûter jusqu'à 135 millions d'euros. Selon Bloomberg News, un employé et plusieurs de ses collègues ont pu convaincre la banque d'émettre des titres financiers frauduleux qu'ils auraient ensuite revendus. Citibank a indiqué que la police a été saisie.
Merci Anastasie pour cette page d'économie.
Voilà votre page sportive de ce soir avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par le football. Le Chan atteint les quarts de finale.
Oui, la compétition se déroule au Rwanda, le pays des mille et une collines. Demain samedi à Kigali, les abeilles du Rwanda vont tenter de piquer les léopards de la RDC. Le deuxième quart aura lieu le même jour, demain toujours, entre les lions camerounais et les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dimanche à Kigali, la Tunisie croisera le fer avec le Mali, tandis que la Guinée jouera contre le Chipolopolo de la Zambie.
Oui, Bagassi, et pour le la CAN de handball, on n'a pas encore les résultats des matchs de la demi-finale entre l'Algérie et la Tunisie, l'Angola et l'Égypte. On le saura et nos auditeurs seront informés sur notre page Facebook. Et la FIFA corruption, Bagassi, les appels de Blatter et Platini examinés mi-février.
Oui, la commission des recours de la Fédération internationale étudiera le 16 février l'appel de Joseph Blatter. Il a été suspendu 8 ans par la commission d'éthique de toute activité dans le football. Le passage de Blatter, président démissionnaire de la FIFA, depuis le 2 juin 2015, devant cette commission, aura lieu 24 heures après celui de Michel Platini, qui lui aussi a fait appel de sa sanction de 8 ans, prononcée le 21 décembre. Les deux hommes, jusqu'alors les plus puissants de la planète football, sont tombés en raison du paiement controversé d'1,8 million d'euros du Suisse au Français en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002 sans contrat écrit.
Et on enchaîne avec le tennis Bagassi Open d'Australie 5-7 et une cinquième finale pour Andy Murray.
Oui, Andy Murray s'est qualifié pour sa cinquième finale de l'Open d'Australie en faisant plier l'homme en forme du début de saison, le Canadien Milos Raonic en 5-7, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2 et 4-3 minutes de jeu vendredi à Melbourne.
Oui, basketball, NBA, Toronto qui entre dans le club des 10, c'est Toronto. Oui.
Oui. Pour la première fois dans leur histoire, les Toronto Raptors ont aligné 10 victoires consécutives après leur succès jeudi face aux New York Knicks 103 à 93. La seule franchise canadienne dans la NBA reste sur les talons des Cleveland Cavaliers à la deuxième place de la conférence Est après cette 31e victoire en 46 matchs. Hier, il faut le rappeler, Toronto a défait les Knicks 103 à 93.
Oui, et aussi Chicago qui se classe pas mal. Et on reviendra à Washington, bien sûr, les Wizards qui sont en difficulté.
Oui, le Wizard battu 113 à 117.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Le 26e sommet de l'Union africaine s'ouvre demain à Addis Abeba. Le Burundi fera l'objet d'une attention particulière des chefs d'État. L'Union africaine souhaite l'envoi d'une force militaire, mais Bujumbura rejette cette idée. Qu'est-ce que l'opposition attend de ce sommet? Idriss Fall, adjoint Léonard Nyangoma, président du CENARED, la principale coalition de l'opposition au Burundi.
Le CENARED que je préside vient d'adresser au sommet de l'Union africaine et au secrétariat général des Nations Unies deux mémorandums qui décrivent en détail la tragédie, le calvaire que vit le peuple burundais. La tragédie a atteint son paroxysme avec les tueries massives faites par le régime de facto de Nkurunziza. Il est grand temps que nos frères africains se réveillent. Nkurunziza n'acceptera jamais les exhortations verbales. Il faudrait que l'Union africaine exerce de fortes pressions diplomatiques, économiques et financières qui comprendraient notamment un embargo sélectif sur les armes, les munitions et le jet des avoirs extérieurs des ténors du régime. Que l'Union africaine, enfin, décide de retirer les contingents des militaires burundais à mission de maintien à la paix et faire en sorte que le gouvernement burundais n'ait aucune retombée financière de ces missions. On ne peut pas prétendre maintenir la paix à l'extérieur quand chez vous c'est l'insécurité générale. Alors, qui reviennent pour maintenir la paix au Burundi?
On ne vous entend pas parler de forces africaines qu'il faut envoyer au Burundi.
Oui. Nous attendons qu'en fait, effectivement, le sommet qui commence demain des chefs d'État prenne la décision sans équivoque en faveur donc du projet Maprobu, une force pour la protection de la population et pour le désarmement des milices Imbonerakure, les milices du pouvoir.
Bujumbura a déjà rejeté l'idée disant que ce sera une force d'occupation.
Si on coupe les vivres en Nkurunziza, s'il n'a plus les moyens de faire vivre sa clique et son oligarchie avec qui il partage le pouvoir par la force, je ne crois pas qu'il va résister à une décision du sommet de tous les chefs d'État de l'Union africaine, y compris les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Si on décrète un embargo sur le Burundi, comment est-ce qu'il pourra survivre? Si le Conseil de sécurité vote une résolution de renvoi de ses forces, comment est-ce qu'il pourra tenir? Et je crois que les Burundais aussi doivent comprendre, nous sommes d'abord les premiers responsables à nous occuper vraiment de Nkurunziza pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'obliger à venir à la table des négociations et peut-être l'aider à partir. Il a peur de partir, il a commis tellement de crimes humains et crimes économiques. Il pense que dès qu'il partira, il sera arrêté et jugé.
Léonard Nyangoma, président du CNARED, la coalition de l'opposition burundaise, joint en France.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi. Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale à La Haye. Hier, à l'ouverture, l'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable. Voici un micro-trottoir de Julien Anaki en Côte d'Ivoire. Il a tendu donc son micro aux Ivoiriens pour connaître un petit peu leur point de vue sur ce procès.
Qu'il y ait un vrai jugement, parce que tous nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On connaît plus ou moins les acteurs de la crise ivoirienne et on sait ce qui était en place, comment la guerre est arrivée. Et voilà quoi. Donc, ceux qui tiennent les ficelles de la CPI devront en tenir compte, logiquement, pour tirer des conclusions objectives.
On attend que ce procès vraiment soit équitable, afin que nous, les Ivoiriens, on puisse s'épanouir, puisque la réconciliation nationale de ce pays vraiment dépend aussi quelque part du procès de Laurent Gbagbo. On attend que la CPI vraiment puisse jouer son rôle en tant qu'un organisme neutre.
Je suis heureux que ce procès-là ait lieu, parce qu'enfin, on aura la vérité. Voilà, nous espérons que la vérité soit dite et qu'au sorti de cela, les responsabilités soient situées. Monsieur Laurent Gbagbo est coupable de ce qu'on lui reproche. Personne ne pleurera qu'il aille en prison. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on le relâche.
Pour la Côte d'Ivoire, je peux dire que ce procès-là pouvait quand même faire évoluer les choses si et seulement si ça se passe normalement. Parce que c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Si les choses se passent normalement, je pense qu'on peut avoir une évolution dans ce que nous faisons. Surtout la paix. C'est la paix que nous cherchons. Si ça se passe correctement, je pense qu'on pourrait retrouver la paix durable. Pour la justification, je peux dire oui, ça se justifie parce que du moment que la communauté internationale a jugé bon qu'ils soient là-bas, ça se justifie. Parce que selon eux, sa présence à la haie pouvait quand même donner une explication, je peux dire un espoir à l'évolution de la Côte d'Ivoire.
M'inspire la paix, pourvu qu'il soit libéré. S'il est libéré, ça donne la paix au pays. Parce que ça fait au moins 5 ans qu'il est là-bas, c'est un Ivoirien après tout. Un Ivoirien qui est en prison, c'est toute la Côte d'Ivoire, j'allais dire, qui est en prison. Donc ça fait la paix pour nous.
Si la justice fait son travail, qu'il doit rester là-bas, bon, tout ça, c'est la justice qui va décider.
Pour la réconciliation, il faut qu'on le libère, ou bien soit les deux parties, on les juge. Moi, c'est ce que je pense. Parce que ce sont les deux. Ce n'est pas un camp de Gbagbo seulement qui a tué. Ce sont les deux camps qui se sont affrontés. Donc là, il faut que la justice se fasse.
Voilà, c'était des réactions d'Ivoiriens sur le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo au micro de Julien Anaki.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Kwama Gana est l'une des plus grandes centrales solaires d'Afrique centrale. Elle est entrée en production l'année dernière au Rwanda avec des panneaux photovoltaïques déployés sur 21 hectares. Érigée dans l'est du pays, la centrale solaire a une production maximale de 8,5 MW, soit près de 5% de la capacité totale du réseau rwandais. Un reportage de Maurice Morgan Magorane, qui nous est présenté par Salwa Jafari.
Le cadre, une véritable carte postale. Les fameuses collines vertes rwandaises entourent le site avec une vue imprenable sur le lac Mugesera, à 60 km à l'est de Kigali. Les 28 360 panneaux solaires sont disposés en rangées parfaites. De l'aube au crépuscule, les panneaux photovoltaïques contrôlés par ordinateur s'inclinent vers l'est, puis vers l'ouest, à la recherche des rayons solaires, ce qui les rend plus efficients à 20% comparé aux panneaux fixes. Toi, Guéry Mana, le directeur de la centrale, explique.
La centrale contribue à hauteur de 5% de la capacité nationale. Comme le Rwanda est toujours à la recherche d'autres sources d'énergie, la capacité va augmenter.
La centrale solaire de Rwamagana a une capacité de 8,5 MW. Elle peut alimenter 15 000 foyers environ. Le coût, plus de 23 millions de dollars. Elle a été construite par la firme Afritech en un temps record, 6 mois. Étant donné l'instabilité de la production d'une centrale solaire, les autorités rwandaises ne vont utiliser que 10% de l'énergie solaire sur le réseau électrique national. Germaine Kamayre, secrétaire d'État en charge de l'eau et de l'énergie, parle des ambitions de son pays.
Nous avons des projections de produire bientôt 10 MW. Sur notre construction solaire qu'on prévoit avoir dans la partie est du pays, tout près de Rwimavu.
Même si le Rwanda n'est pas particulièrement ensoleillé, il a porté son choix sur l'énergie photovoltaïque en complément à d'autres ressources. Jean Bosco Mugeraneza, secrétaire exécutif de Rwanda Energy Group.
Les panneaux solaires ou l'énergie solaire va tout simplement résoudre les problèmes dans les milieux ruraux, dans les districts lointains. Ça ne résout pas le problème pour les industries.
Évidemment, l'énergie produite par Wamagana reste insuffisante pour alimenter tout le territoire. Beaucoup de Rwandais, surtout dans les zones rurales, devront patienter avant d'être connectés au réseau électrique.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Nous partons maintenant au Mali. Un coup de projecteur sur Yali, un programme initié par le président américain Barack Obama à l'attention des jeunes leaders africains. De retour des États-Unis, les participants organisés en association ont fait de la santé publique et du renforcement des capacités des jeunes leur cheval de bataille. Leurs projets sont appuyés par l'ambassade américaine. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, est parti à la rencontre de ses dirigeants en herbe.
Yali est une initiative du président des États-Unis, Barack Obama, ayant pour but d'investir dans la prochaine génération des dirigeants africains. Le président Obama a lancé ce programme en 2010 pour soutenir les jeunes leaders africains qui contribuent au développement de leur communauté, en forçant la bonne gouvernance, en améliorant les conditions de paix et de sécurité en Afrique.
Je suis Bernadette Maïpé et j'ai bénéficié de la bourse Yali Mali en 2014. En fait, Yali Mali, c'est une association de tous les anciens bénéficiaires de la bourse Mandela Washington Fellowship. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement de notre activité sur la santé. C'est un grand projet qui prend en compte toutes les questions de santé au Mali et qui va se passer non seulement dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
L'initiative Yali Mali est soutenue par le Conseil national de la jeunesse du Mali, dont le président est Mohamed Salia Touré.
Cette initiative qui l'a soutenue quand on sait aujourd'hui que notre pays a besoin vraiment de beaucoup plus d'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Il faut dire que l'entrepreneuriat constitue un ascenseur social aujourd'hui que tout le monde peut prendre tant le niveau requis est bas. Il suffit d'avoir une volonté travailleuse et d'être engagé et pour pouvoir se frayer son chemin. On ne peut pas attendre tout de l'État. L'État est démuni, l'État ne peut pas employer tout le monde.
Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, la démocratie et le développement ne peuvent aller sans un citoyen bien formé et informé. Sa présence à la cérémonie traduit la volonté de la coopération américaine d'aider les citoyens des pays amis à renforcer leurs capacités et à assurer leur propre prise en charge à travers une participation de qualité à la vie active de leur pays. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Nous avons un programme très très fort ici avec plusieurs programmes et je suis sûr que dans l'avenir nous avons des autres projets pour faire aussi. Une des clés c'est l'idée de l'entrepreneuriat parce que nous devons assurer qu'il y a toujours un programme avec l'argent et la capacité de continuer.
L'association Yali Mali vient de lancer deux projets dans le domaine de la santé. Bernadette Maïpé.
Étant donné tous les problèmes d'emploi que nous avons dans ce pays, il faut que nous essayions de plus nous diriger vers l'entrepreneuriat. Et si j'ai un appel à lancer à nos autorités publiques, à l'État, c'est de vraiment créer un climat favorable à l'entrepreneuriat jeune, car le développement du pays peut également être basé sur cette phase du développement.
C'est dans cette optique que l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Bamako appuie les anciens participants au prestigieux programme du président Obama dans la réalisation de leur présent projet. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit... Peace, Africa!
Désolé d'interrompre cette belle mélodie, c'est la fin de cette édition. La réalisation a été assurée par Michel Joseph. À la mise en onde, Sidrak Franklin. Présentation, Nathalie Barge et Eric Manirakidzi.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. Très bonne soirée à tous. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.